Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis.
Rediffusion du 17 septembre 2017.
Chers amis, première de deux émissions aujourd'hui consacrée à une région, la Cappadoce, qui fut chrétienne pendant de longs siècles, ce dont témoignent les nombreux monuments religieux préservés jusqu'à nos jours. Située au centre d'Anatolie, actuellement en Turquie, la Cappadoce est intimement liée à l'histoire du christianisme. Pour parler de la Cappadoce, en particulier de ses monuments chrétiens, nous recevons une grande spécialiste de cette question, Catherine Jolivet-Lévy, historienne de l'art byzantin, directrice d'études émérite à l'École pratique des hautes études. Catherine Jolivet, depuis quand la présence chrétienne est-elle attestée en Cappadoce ?
Eh bien, elle est attestée de très longue date, puisque déjà les Cappadociens sont mentionnés parmi les peuples qui sont témoins du miracle de la Pentecôte et seront donc évangélisés par les apôtres. Et les Cappadociens sont également mentionnés dans la première épître de Pierre, entre autres peuples donc qui vont être évangélisés. Et à ce propos, c'est peut-être intéressant de mentionner une tradition légendaire ancienne, mais dont Arétas de Césarée se fait encore l'écho au Xe siècle et dont on trouve aussi le reflet dans certaines peintures de Cappadoce, selon laquelle le premier évêque de Césarée aurait été Saint-Pierre lui-même, avant de se rendre à Rome, et il est représenté dans une église de Cappadoce, la nouvelle église de Tokale, au milieu du Xe siècle, en train prenant le principal rôle dans l'envoi des apôtres en mission, et ordonnant aussi les sept premiers diacres, s'il ne correspond pas au récit des actes, où il n'a pas ce rôle aussi important. Et il est représenté en plus avec au doigt l'anneau des évêques. Donc une tradition évidemment chrétienne très ancienne. Dès le IIIe siècle, le christianisme semble bien implanté. On connaît quelques évêques de Cappadoce qui participent à l'élaboration doctrinale du christianisme. Et évidemment, au IVe siècle, ce qu'on a appelé les pères de l'église cappadocienne, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, qui vont contribuer aussi à cette définition, à cette précision du dogme chrétien au Concile de Nicée. Donc, au IVe siècle, la Cappadoce est majoritairement chrétienne. Il y a une population assez nombreuse, un clergé aussi nombreux, avec de très nombreux corps-évêques, c'est-à-dire des évêques de campagne qui assistent les évêques des villes. Et de très nombreux sanctuaires sont attestés par les sources littéraires, donc des églises de village, mais aussi des oratoires, des chapelles de couvents, et surtout un très grand nombre de martyriats. Et c'est intéressant parce que ça atteste la vitalité du culte des reliques dans cette région, reliques de Saint Mamas, Saint Mercure, Saint Eupsychios, Saint Julite, etc. Évidemment, ces martyriats drainent des pèlerinages et suscitent aussi une activité économique avec l'organisation de foires, etc. Donc, un christianisme implanté de longue date. Et après, donc, la Cappadoce faisant partie de l'Empire byzantin, l'Empire romain chrétien d'Orient, dont la religion officielle est depuis la fin du IVe siècle le christianisme, la Cappadoce va rester chrétienne tout au long de son histoire byzantine qui s'achève à la fin du XIe siècle avec la conquête turque et qui va intégrer la Cappadoce dans le sultanat seldjoukide de Roum. Donc les chrétiens évidemment ne vont pas disparaître à la fin du XIe siècle, les communautés chrétiennes restent nombreuses en Cappadoce, mais la période qui suit la conquête turque est une période mal connue d'insécurité, de guerre, qui n'est pas propice au développement d'une architecture religieuse nouvelle, etc. Donc après, il faut attendre le début du XIIIe siècle pour qu'on ait à nouveau des fondations importantes d'églises chrétiennes en Cappadoce, en particulier dans la première moitié du XIIIe siècle, mais pas seulement. Jusqu'à l'extrême fin du XIIIe siècle, on aura des attestations donc archéologiques, disons, de la vitalité du christianisme en Cappadoce. Après, s'il faut éventuellement envisager l'époque ultérieure, après, évidemment, on est moins bien renseigné. Évidemment, des communautés chrétiennes hellénophones demeurent en Cappadoce, même à l'époque ottomane, mais il n'y a plus de construction d'édifices religieux jusqu'au XIXe siècle avec les réformes des Tanzimates qui, en 1839, vont à nouveau autoriser les non-musulmans de l'Empire ottoman à édifier des églises. Et on a quelques très grandes églises construites du XIXe siècle qui sont encore conservées dans plusieurs villages cappadociens, à Ortaïssar, à Urgup, et qui attestent donc de l'importance encore de ces communautés grecques, hellénophones ou turcophones d'ailleurs, parce que beaucoup maintenant sont turquisées et certaines même islamisées dans la région. Voilà, et tout ceci jusqu'à l'échange des populations en 1923, qui là va faire disparaître les chrétiens de Cappadoce.
C'est donc le traité de Lausanne en 1923. Ouais. Et il faut peut-être rappeler que ces dernières années, le patriarche de Constantinople obtient des autorités locales l'autorisation de faire un pèlerinage annuel dans certaines villes, là où le christianisme florissait donc jusqu'en 1923. Et nous avons plusieurs exemples ces dernières années de visites et de célébrations dans des églises abandonnées parfois, mais qui sont quand même toujours là. Et ça fait un beau souvenir aussi pour des gens qui sont descendants de ceux qui ont quitté ces lieux il y a très longtemps. On va faire une pause pour aller dans l'église, mais dans la prière de l'église, bien sûr, dans la prière de l'église byzantine. Ce sera un tropaire tiré du canon de la grande paraclèse à la Mère de Dieu, chanté par le chœur byzantin de Grèce et dirigé par Lycouros Angelopoulos. Après cet extrait du canon de la Grande Paraclèse à la Mère de Dieu par le chœur byzantin de Grèce, dirigé par Lycouros Angelopoulos, nous revenons à notre entretien avec Catherine Jolivet-Lévy sur les monuments chrétiens en Cappadoce. Je voudrais ici citer quelque chose de Grégoire de Nice, donc un père de l'Église du IVe siècle, le frère de Basile de Césarée, qui parle de la Cappadoce en disant « En vérité, s'il est possible de reconnaître la présence de Dieu d'après ce qu'on voit, on serait tenté de penser que Dieu habite dans la nation des Cappadociens, plutôt que dans les lieux étrangers. Combien y a-t-il ici de sanctuaires grâce auxquels le nom de Dieu est glorifié? On ne peut compter davantage de sanctuaires, ou presque, dans le monde entier. » C'est pour dire à quel point au IVe siècle la Cappadoce paraît chrétienne. Hein, c'est... Vous êtes une grande spécialiste des monuments, historienne de l'art. Vous avez fait paraître, évidemment, écrit beaucoup d'articles et puis paraître un très beau livre en 1997, intitulé « La Cappadoce, mémoire de Byzance ». On va maintenant entrer un peu plus, si vous voulez bien, dans le détail pour reprendre ces choses-là. D'abord, la morphologie de ces monuments. La Cappadoce, c'est toujours quelque chose de particulier. On le sait, les photos qu'on en voit, on est étonné de voir que la plupart de ces églises sont construites en creusant la terre plutôt qu'autre chose.
Oui, donc comme vous l'avez dit en rappelant cette citation de Grégoire de Nice, le souvenir de la présence chrétienne en Cappadoce est visible absolument partout. Et pas seulement, évidemment, avec des monuments du IVe siècle qui sont même aujourd'hui les moins nombreux. Mais le nombre des sanctuaires, alors on demande souvent combien est-ce qu'il y a d'églises en Cappadoce. Le nombre des sanctuaires est très difficile à évaluer. Il y en a au moins 250 qui présentent un intérêt archéologique ou historique particulier. Mais le nombre d'églises peut être évalué à plus d'un millier. Pourquoi ? Eh bien, cette conservation extraordinaire, qui n'a pas d'équivalent dans le reste du monde byzantin, tient à la nature rupestre, vous l'avez dit, de cette architecture. Donc, les monuments sont creusés dans la roche. Pourquoi ? Parce que la formation géologique de la région s'y prêtait, qui est le résultat d'une activité volcanique très importante, qui a contribuer à la formation géologique de cette région avec d'épaisses couches de dépôts volcaniques, des dépôts ignimbritiques pour être précis, qu'on appelle plus souvent du tuf, qui est une roche facile à creuser, qui présente aussi des qualités remarquables d'isolation thermique et où de tout temps, même avant l'époque chrétienne, les habitants de Cappadoce ont creusé leurs habitations, leurs installations agricoles et puis leurs lieux de culte. On a des témoignages très anciens, par exemple Varron, dans son Économie rurale, au 1er siècle, donc avant Jésus-Christ, parle des greniers souterrains creusés par les Cappadociens pour y conserver le blé. Et à l'époque byzantine, Léon le Diacre, d'une citation bien connue, donc au Xe siècle, dit que les habitants de Cappadoce sont appelés troglodytes parce qu'ils vivent dans des cavernes. Donc on a une tradition d'architecture rupestre et évidemment, les monuments rupestres se sont beaucoup mieux conservés que les églises construites. Les églises construites, elles servent de carrière, elles sont démolies intentionnellement ou elles ont disparu au cours des siècles. Alors que les édifices rupestres sont surtout soumis, c'est à nuancer parce que l'action de l'homme les atteint aussi, mais ils sont surtout soumis à l'action lente mais irréversible de l'érosion. Donc une conservation en bien plus grand nombre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une architecture qui était très économique. Pas besoin de se préoccuper de l'approvisionnement de matériaux, quelques poutres pour dresser des échafaudages, des brouettes pour évacuer les gravats suffisaient pour l'excavation d'une église. Mais on est frappé, bien qu'on l'oublie quelquefois quand on est dans ces monuments, par la maîtrise technique qu'ils supposent de la part des artisans. Car on a des églises qui sont très simples parfois, des chapelles à une nef, avec un plafond, une abside, mais on a d'autres qui sont très sophistiqués dans leur architecture, avec des coupoles, des colonnes, des chapiteaux, enfin bon, des éléments. Il faut penser que toute erreur d'appréciation dans la construction, entre guillemets, d'une église rupestre est irrattrapable. Si vous oubliez de laisser le rocher qui doit correspondre à une colonne, vous n'aurez pas de colonne. Donc, ça demande une maîtrise technique remarquable de la part des artisans excavateurs de ces monuments. Et ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est que dans l'architecture rupestre, a priori, la plus grande liberté pouvait être laissée aux artisans dans l'imagination des formes. Or, ils reproduisent fidèlement la typologie des églises construites, les plans, l'élévation des monuments en maçonnerie. Et ceci, bien sûr, existait en Cappadoce, bien qu'on n'en ait plus beaucoup d'exemples. On a quelques églises remarquables de l'époque paléochrétienne qui subsistent. Et on peut citer ici l'église qu'on appelle l'église rouge, Kizil Kilissé, qui se trouve au sud de la Cappadoce, près de Sivri-Hissar, et qui est une église extraordinaire parce qu'elle a conservé son élévation. C'est une église, une basilique à coupole, et elle a été récemment restaurée avec l'aide du World Monuments Fund. Et on a pu aussi la dater précisément grâce au carbone 14 du milieu du VIe siècle. Puis il y a aussi des églises construites médiévales qui sont conservées. Mais bon.
Catherine Jolivet, il faut peut-être parler maintenant aussi de la manière dont on a connu cette histoire. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait un descriptif un peu rapide et complet de l'histoire de la Cappadoce byzantine. Comment sait-on tout ça et surtout comment connaît-on ces monuments ?
L'un des premiers peut-être à avoir attiré l'attention sur la Cappadoce, autant sur ses paysages d'ailleurs que sur ses monuments, c'est Paul Lucas, envoyé par Louis XIV en 1714 et qui a donné des descriptions très fantaisistes de cette région. Mais pour être plus sérieux, l'intérêt pour les paysages et pour les monuments de Cappadoce commence à se manifester chez les voyageurs et les scientifiques au XIXe siècle. Donc on a une série de personnes comme Charles Texier, des géologues ou géographes anglais, il y a un photographe américain aussi, Henry Hines, qui vont se voyager en Cappadoce, faire des photos, des monuments et des paysages. Mais en fait, l'étude scientifique vraiment de la Cappadoce commence au début du XXe siècle, avec d'abord un ouvrage d'un Allemand, Hans Roth, qui donne des descriptions de certains monuments, quelques plans, des photos. C'est une première approche plus précise des églises. Mais l'ouvrage fondamental, celui qui va vraiment fonder l'étude de ces églises byzantines, c'est l'ouvrage du père Guillaume de Gerfagnon, qui est publié entre 1925 et 1942, qui s'appelle « Les églises rupestres de Cappadoce, une nouvelle province de l'art byzantin ». Et le père de Gerfagnon était missionnaire jésuite à Tocat, dans le Pont, où il enseignait les sciences. Et il a eu l'occasion, en 1907, de faire un premier voyage en Cappadoce, qui a été suivi de quelques autres, en 1911, 1912 et 1927. Et c'est lui, vraiment, qui a procédé pour la première fois à une classification qui a établi une chronologie qui reste en très grande partie valable aujourd'hui des églises rupestres de Cappadoce. Donc c'est vraiment l'ouvrage fondateur de la recherche sur les monuments byzantins de Cappadoce.
Et donc un Français.
Alors un après Jésus évidemment aussi. Après la tradition française s'est perpétuée avec l'œuvre de Nicole Thierry qui dès les années 50 s'est investie avec beaucoup de passion dans la recherche et dans l'étude des monuments byzantins de Cappadoce et qui a publié de nombreux livres et d'innombrables articles remarquables pour faire connaître donc cette documentation archéologique qui à de nombreux égards permettait de réviser ce que l'on savait jusqu'ici de l'art byzantin à partir des monuments de Grèce ou des Balkans ou d'ailleurs. Donc c'est vraiment une documentation qui a permis d'approfondir la connaissance de l'art byzantin. Alors Nicole Thierry, il y a d'autres auteurs, hein, allemands, italiens, turcs, qui ont aussi contribué, mais dans une moindre mesure, à la connaissance des monuments byzantins de la région.
Et il faut dire que votre propre œuvre a beaucoup contribué aussi à continuer, non seulement à continuer la tradition française, mais aussi notre connaissance. Alors pour les quelques minutes qui nous restent, si vous voulez bien, on va essayer de faire une première organisation, je dirais, de cette période byzantine, faste pour l'archéologie et pour l'histoire de l'art, parce qu'il y a l'archéologie, mais après il y a les peintures, évidemment, vous étudiez ce qu'on voit sur les murs, ça c'est très important. Quelles sont les périodes les plus importantes ?
Alors, les périodes les plus importantes pour les peintures, hein, parce qu'il y a des monuments paléochrétiens qui sont fort intéressants, plus peut-être pour l'architecture ou pour les aménagements liturgiques, comme la basilique Saint-Jean-Baptiste de Chaoxin, qui a une fosse à reliques impressionnante. Pour les peintures, la grande période, c'est les 10e, 11e siècles. En gros, ça correspond à l'époque de la dynastie macédonienne à Byzance, donc 867-1056, et c'est là vraiment qu'on assiste, après la fin de l'iconoclasme, en 843, après le début de la reconquête sur les Arabes, la reconquête des terres byzantines qui avaient été prises par les Arabes, on assiste à une véritable explosion d'images dans les églises byzantines du Xe, puis du XIe siècle. Alors au Xe siècle, la première moitié du siècle surtout, on a un groupe que Gerfagnon avait défini comme le groupe des églises archaïques, parce qu'il pensait que c'était la continuation un peu servile de décors pré-iconoclastes, de décors de Syrie-Palestine, mais qu'aujourd'hui, on interprète un petit peu différemment. Donc, il y a ce groupe d'églises archaïques qui présente des caractéristiques iconographiques communes que je n'ai pas le temps de détailler ici. Et ensuite, au XIe siècle, on a aussi une série d'églises où là, l'influence constantinopolitaine est beaucoup plus évidente que dans les décors antérieurs, aussi bien dans l'architecture que dans les programmes iconographiques. Mais il y a toujours des spécificités qui demeurent, par exemple, dans le répertoire hagiographique représenté.
Peut-être juste un mot sur l'iconoclasme, ce qu'on appelle d'habitude un décor iconoclaste, c'est-à-dire un décor où il n'y a pas de visage. Hein,
c'est ça. Alors il faut faire la distinction entre décor iconoclaste et décor aniconique ou non figuratif. C'est-à-dire que, bon, en Cappadoce, on a un certain nombre de décors non figuratifs qui ne sont pas forcément associés à la période de l'iconoclasme byzantin, c'est-à-dire que ce mouvement initié à Constantinople et par les empereurs. Les décors, la tradition de décors aniconiques remonte à l'époque paléochrétienne. Elle se poursuit au-delà même de l'iconoclasme byzantin, enfin la période qui s'achève en 843. Donc, on est beaucoup revenu ces dernières années sur l'attribution à l'époque iconoclaste des décors aniconiques en Cappadoce comme ailleurs, d'ailleurs, à Naxos ou dans d'autres régions.
Merci beaucoup. Donc, je rappelle qu'il y aura bien une deuxième émission au cours de laquelle on va voir certaines choses de plus près. C'est passionnant, évidemment, en compagnie de quelqu'un comme vous qui connaissez bien la région. Alors, je rappelle votre livre paru aux éditions du CNRS en 1997, Catherine Jolivet-Lévy, La Cappadoce, mémoire de Byzance. C'est donc la fin de cette première émission consacrée au monument chrétien en Cappadoce en compagnie de Catherine Jolivet-Lévy. Ainsi profane orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Stéphane Touvenin. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.